Venu en VRP du Brexit, Boris Johnson ne s'attendait pas à un tel accueil. La politique du tout nouveau Premier ministre britannique n'est pas vraiment appréciée en Écosse. Son homologue écossaise le lui a signifié de façon plus polissée.
Derrière tout le bluff et la fanfaronnade, je pense que la voie choisie par ce gouvernement est dangereuse. Il m'est apparu clair que ce gouvernement et que le nouveau Premier ministre ont mis le Royaume-Uni sur la voie d'un Brexit sans accord. Je pense que cela serait catastrophique pour l'Écosse et l'ensemble du Royaume-Uni.
Petite anecdote qui en dit long. Après son entretien avec la chef du gouvernement écossais, Boris Johnson a dû sortir par la porte de derrière. Avec 62% pour le No, l'Écosse avait voté massivement contre le Brexit en 2016. Or, Boris Johnson a été clair, lui aux affaires, le divorce sera consommé au 31 octobre, accord ou pas, avec l'Union européenne. Après le nord de l'Angleterre et l'Écosse, Boris Johnson s'est rendu au Pays de Galles et en Irlande. Il continue à vouloir vanter la Grande-Bretagne post-Brexit, quand bien même des études alertent sur un risque de récession.
La possibilité de faire les choses différemment, d'avoir des ports francs, nos propres régulations, de dynamiser le secteur scientifique, tout cela est extraordinaire et ce sont ces objectifs que l'on doit poursuivre. Vous pouvez applaudir si vous le souhaitez.
Un Boris Johnson qui invite la salle à l'applaudir, preuve ultime du long chemin qui lui reste à parcourir pour convaincre. Ce plan de sortie, beaucoup n'y croient pas. Notamment les Irlandais qui craignent un retour d'une frontière physique sur l'île. L'opération de communication de Boris Johnson aux quatre coins du royaume tourne-t-elle au fiasco? Son empressement à boucler le Brexit va-t-il liguer les siens contre lui? Boris Johnson risque-t-il de faire exploser le royaume devant une Europe impassible?
Voilà. Transformée en mission impossible. John Henley, on l'a vu sur ces images, hein, Boris Johnson a été accueilli assez fraîchement en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Est-ce qu'il peut réussir à convaincre les habitants de ces régions qui avaient voté contre le Brexit, il faut le rappeler, de la nécessité de quitter l'Union européenne, là, le 31 octobre, sans accord?
C'est bien la question. J'ai bien peur que non. Au moins, ça dépend du genre de Brexit qu'on aura. Surtout en cas de no deal ou d'un Brexit très dur, je pense qu'il est fort probable que surtout les Écossais vont voter, tous les sondages le montrent, pour un deuxième référendum sur l'indépendance de l'Écosse, et que les Irlandais les Irlandais de l'Irlande du Nord soutiendront eux aussi carrément une réunification de l'Irlande. Le Pays de Galles, c'est un petit peu plus compliqué. Le Pays de Galles a voté en petite majorité pour le Brexit, mais je pense là aussi, c'est l'une des régions de la Grande-Bretagne qui risque de souffrir le plus d'un Brexit très dur ou d'un no deal. Donc là aussi, je pense que l'Union, vraiment, oui, ça risque de se défaire.
Alors maintenir justement la Grande-Bretagne à tout prix, c'est aussi une histoire de gros sous. Claude, c'est votre chiffre du jour.
Ce qui nous amène au chiffre du jour, 300 millions de livres sterling que Boris Johnson a promis d'apporter en investissement à l'Écosse, à l'Irlande du Nord et au Pays de Galles. Pour, mon Dieu, amadouer, pour le morceau de sucre qui aide la médecine à couler, disait Mary Poppins, qui était britannique. Question pour vous, Catherine Mailleux, est-ce que, au-delà de la démagogie ou de la session de rattrapage, est-ce que le Royaume-Uni, hors Europe, a les moyens de compenser pour l'Écosse, par exemple, la perte de l'Europe?
Il faut déjà savoir quel type de sortie le Royaume-Uni fera à l'Union européenne. Tout dépend si le Royaume-Uni sort sans accord, de façon très chaotique, où là on pourrait effectivement s'attendre à avoir une baisse forte de l'activité et des conséquences économiques importantes, ou si finalement le Royaume-Uni arrive à renégocier avec l'Union européenne un accord qui lui permet de sortir dans de meilleures conditions.
S'il sort dans un accord sec, ce que souhaite l'accord dur, ce que souhaite Boris Johnson, est-ce que le Royaume-Uni, de ses propres forces, peut compenser ce qu'il perdra, ce que vous suggérez Boris Johnson, en investissant en Écosse, par exemple?
Mais en fait, je pense quand même qu'il faut déjà peut-être relativiser un peu ce que vous dites. Boris Johnson souhaite pour le moment renégocier avec l'Union européenne et en particulier sur la question de la frontière irlandaise. Bon, pour l'instant, l'Union européenne dit qu'elle ne souhaite pas renégocier. Ensuite, sur la question que vous posez, la question de l'Écosse aujourd'hui, c'est relativement petit en termes économiques, l'Écosse, par rapport à l'ensemble du Royaume-Uni. C'est 5 millions d'habitants sur 60 millions d'habitants. L'Irlande du Nord, c'est 2 millions d'habitants seulement. Et en fait, le poids économique de ces nations britanniques est relativement faible. Donc, ça serait assez facile de compenser, effectivement, dans ces régions, les effets d'un Brexit.
Sur le plan économique. Il y a tout de même des plateformes pétrolières qui sont importantes pour le Royaume-Uni, non ?
Oui, bien sûr. Mais ces plateformes pétrolières ont malgré tout perdu de l'importance au cours du temps. On a eu quand même un certain épuisement des gisements pétroliers en mer du Nord. Et aujourd'hui, l'Écosse vit quand même sous assistance du Royaume-Uni. Il y a un déficit budgétaire important pour l'Écosse, qui est de l'ordre de 8% du produit intérieur brut écossais. Il y a vraiment un soutien de l'économie anglaise vers l'Écosse. Et donc, en fait, aujourd'hui, en termes économiques, l'Écosse n'a pas intérêt à sortir du Royaume-Uni.
Sylvie Matelli, on est dans des symboliques fortes, l'Écosse, Marie Stuart, l'indépendance, alors qu'en réalité, ce qui compte là-bas, c'est l'Angleterre, le patriotisme anglais qui est revenu, l'idée d'une identité anglaise au sens propre.
C'est le Royaume-Uni. C'est ce Royaume-Uni qui va retrouver toute sa splendeur. Et au-delà du Royaume-Uni...
Mais le cœur du Royaume-Uni, c'est l'Angleterre.
Tout à fait, c'est clair. Mais simplement, je crois que c'est pas du tout dans l'objectif de Boris Johnson que de diviser ce Royaume-Uni, même si le cœur reste l'Angleterre. On est vraiment dans son tour du Royaume-Uni, sa visite en Écosse, en Irlande du Nord, vise à rassurer et à dire « je vous ai pas oublié, il a fait les promesses dont vous avez parlé ». Donc je crois que on n'est pas dans l'objectif de détricoter le Royaume-Uni. Au contraire, on est dans l'objectif de le renforcer. On est dans une approche qui veut restaurer, permettez-moi le terme, mais la splendeur, la grandeur qu'a eu ce pays à une certaine époque. Moi, ça me fait étrangement penser la vision que Boris Johnson développe sur le Royaume-Uni et sur son pays. Ça me fait étrangement penser à ce qu'était son pays au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe siècle, quand c'était la première puissance au monde. Et on a l'impression que c'est ce qu'il veut reconstruire en réalité, convaincu que c'est le carcan européen qui finalement a durablement affaibli
son... On va voir justement que c'est pas nouveau du tout, vous l'avez dit en effet, mais un peu plus récemment dans les années 70, petit retour donc dans le passé avec notre archive du jour. Là nous sommes en novembre 1973, presque un an après l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'Union Européenne, et à l'époque, certains habitants de la perfide Albion ont déjà un avis bien tranché sur l'Europe et le marché commun.
L'homme de la rue, qui lui ne joue pas en bourse, ressent peut-être une sorte de désenchantement. Le gouvernement lui a demandé de serrer sa ceinture d'un cran, il l'a fait, mais il n'a pas l'impression que cela lui a rendu la vie plus facile. Le marché commun est-il responsable de cet état de fait? Les Anglais sont divisés. Mais ils sont chaque mois plus nombreux à regretter l'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun. Monsieur et Madame White, des Anglais bien tranquilles, partagent cet avis. Lui est responsable des ventes dans une usine, il gagne 2000 francs par mois et son salaire n'a pas été augmenté depuis 3 ans.
On a l'impression que les Anglais finalement refusent un peu cette entrée dans le marché commun.
Là. Oh certainement, on ne veut pas être dans le marché commun, les Anglais n'aiment pas,
Pourquoi?
Pas du tout. Eh bien ici en Angleterre on a une certaine indépendance, on aime penser soi-même, créer soi-même, sa façon de vivre.
John Henley, vous avez de la tendresse pour ce couple de bourgeois, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, ou plutôt... Ou être réduit à cette image-là vous déprime, vous qui êtes correspondant d'un grand journal international, Le Guardian à Paris?
Écoutez, de la tendresse, je ne sais pas. En fait, ce que ça m'inspire surtout, c'est que l'Union européenne ou les atouts de l'Union européenne n'ont jamais bien été compris en Grande-Bretagne. Et les politiques britanniques n'ont jamais bien vendu les avantages de l'Union européenne aux citoyens britanniques. Et on est arrivé à un point où il y a un niveau, je dirais, d'ignorance, surtout sur uniquement sur le fonctionnement de l'Union européenne, de comment ça marche, ce que ça veut dire, ce que ça apporte, même au Parlement britannique. Il y a des députés, si on regarde les débats...
Mais comment peut-on appartenir à un ensemble aussi longtemps, 1973, c'était il y a longtemps, et ne pas le comprendre? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, ou qu'est-ce qui n'allait pas en Europe, pour qu'on ait vécu dans cette ignorance?
Oui, il y a une partie de côté, je ne pense pas que l'Union européenne se vend très bien. On a vu ça aussi en France, en plein d'autres pays, où il y a beaucoup de citoyens qui ne soutiennent pas pleinement le projet, parce qu'ils ne, ou peut-être pas, mais qu'ils le comprennent pas de toute façon. Du côté des Britanniques, écoutez, il y a toujours eu une relation assez exceptionnelle. On n'a pas, on est une île, on n'a pas vécu Par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, de la même façon, le projet européen, c'était à la base un projet pour la paix. La Grande-Bretagne ne l'a jamais vraiment vécu comme ça. C'était surtout un projet commercial. Et depuis tout le temps, en fait, depuis l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, à chaque fois qu'un Premier ministre ou un politique britannique a dû prendre une décision douloureuse, c'était bien toujours la faute de l'Union européenne.
Catherine Mathieu, on a l'impression, c'est vrai que l'Union européenne est beaucoup mieux perçue du côté, par exemple, irlandais qu'anglais.
Oui, tout à fait. Mais en fait, on a deux pays. Déjà, le Royaume-Uni est un grand pays avec une histoire effectivement très importante. C'était un empire. L'Irlande, la République d'Irlande, c'est un petit pays qui a profité de son entrée dans l'Union européenne pour avoir un certain nombre, je dirais, d'avantages. Aujourd'hui, l'Irlande est le pays qui a le taux d'imposition sur les sociétés le plus faible à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, il y a une stratégie.
On n'a pas besoin de quitter l'Union européenne pour faire du dumping fiscal.
Exactement. Mais l'Irlande, justement, montre bien que comment un petit pays a pu effectivement tirer parti de son entrée dans l'Union européenne, effectivement en baissant ses taux d'imposition, en réussissant à attirer des entreprises internationales, en particulier américaines, et a su tirer profit sur le plan économique, vraiment, de son intégration dans l'Union européenne. Le pays s'est vraiment enrichi. Le Royaume-Uni, c'est un cas différent. Effectivement, il y a la taille du pays qui joue beaucoup. Et puis, le Royaume-Uni est un contributeur net depuis toujours au budget européen. On en a beaucoup parlé dans l'histoire de la construction européenne et souhaite quand même garder sa souveraineté, son indépendance.
Alors, cette Irlande, on en parle beaucoup parce qu'il y a cette histoire de backstop en anglais. Alors, c'est un peu compliqué, c'est l'histoire de filet de sécurité. Et justement, Sonia, vous allez nous expliquer ce que c'est ce filet de sécurité.
Je vais tenter de vous expliquer. Alors, qu'est-ce qui se passerait demain en cas de Brexit? Je parle évidemment sous votre contrôle à tous les trois. Alors, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord sortiraient de l'Union européenne, mais pas l'Irlande, donc la République d'Irlande, en vert ici sur cette carte, membre de l'Union européenne depuis 1973 et qui entend bien, elle, le rester. Le risque donc, eh bien, c'est le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes, une hypothèse redoutée, en principe interdite par l'accord de paix de 98 qui avait mis fin à 30 ans de guerre civile en Irlande du Nord. Le risque, évidemment, c'est le retour de la violence. Pour éviter cela, les Européens avaient donc imaginé ce mécanisme avec Theresa May, ce mécanisme du filet de sécurité qu'on appelle aussi backstop en anglais. Pour faire simple, donc, je vais essayer, le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne. Imaginons que le Royaume-Uni sort demain de l'Union Européenne sans accord. Une période de transition est enclenchée. Il y a deux ans de discussions qui sont prévues entre les Britanniques et l'Union européenne pour trouver un accord qui définirait leurs relations futures. Mais quel que soit l'accord qui serait alors trouvé, ou pas d'ailleurs, eh bien l'Irlande du Nord resterait, quoi qu'il arrive, dans ce marché unique, inacceptable pour les partisans du Brexit, Boris Johnson en tête, qui estime que cela remettrait en cause l'intégrité du Royaume-Uni et de son marché. Il veut renégocier, vous l'avez dit, ce point avec les Européens, mais les Européens pour l'instant sont très clairs. Pas question de renégocier. Il refuse. Alors que va-t-il se passer en cas de Brexit sans accord? Boris Johnson assure qu'il ne remettra pas une frontière physique entre les deux Irlandes. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est tenable?
Non. Non. En cas de Brexit dur, il y aura, c'est sûr, des contrôles. Il n'y a pas de frontière nulle part au monde entre deux pays qui appartiennent à des unions douanières différentes, où il n'y a pas de contrôle. Ce que veut éviter, ce serait forcément l'Union européenne qui serait obligée d'imposer ces contrôles-là et qui dit contrôle, dit infrastructure. Et c'est infrastructure que les Irlandais veulent coûte que coûte éviter.
Une chose tout de même, quand on parle d'Irlande, forcément, dans nos têtes, on pense à l'IRA, la guerre civile qu'il y a pu y avoir là-bas. Il y a eu des accords de paix depuis 1998. S'il y a une frontière de nouveau physique, est-ce que ça peut reprendre?
C'est ce que craignent les Irlandais, et je pense qu'il faut les croire.
Mmh. Oui, c'est ça. Claude.
Sylvie Matelli, est-ce que l'Europe est à la hauteur de la crise existentielle britannique? Ou est-ce que nous allons continuer à regarder ce pays se défaire et errer sous la houlette d'un Premier ministre hésitant?
Mais que peut faire l'Europe? C'est toute la question.
Le papa de Boris Johnson dit ouais. « Aidez-le ».
Oui, c'est-à-dire aidez-le à renégocier, accepter de renégocier. Il n'y a pas grand-chose dans cet accord, si ce n'est cette période de transition.